de l'UNESCO.
Vous écoutez IDFM, il est 15h.
Et merci d'être fidèle au journal de la santé et du bien-être naturel sur Radio IDFM Anguin 98. Restez fidèles comme le premier jeudi de chaque mois de 15h à 16h et malgré les circonstances un petit peu extraordinaires, nous sommes là. Nous sommes là avec Francky à la technique et le docteur Jacques Labesca au micro, médecin, ostéopathe et phytothérapeute. Et aujourd'hui, vu les circonstances et les périodes que nous avons traversées et que nous traversons encore, nous allons faire un journal un petit peu spécial, vous en doutez bien. Un journal un petit peu spécial parce que comment ne pas parler de coronavirus, bien sûr. Mais d'abord, nous allons commencer avec le docteur Nathalie Shapiro. Nathalie Shapiro va nous raconter quelques nouvelles, va nous donner des nouvelles, des fausses, des vraies, et va essayer de nous changer un petit peu de l'ordinaire quotidien. Ensuite, nous avons eu la chance au micro, et ça, ne ratez pas son interview, c'est un interview assez long, mais nous avons eu la chance d'avoir François Couplan. François Couplan vit en Suisse, c'est un ethnobotaniste qui a créé le collège d'ethnobotanie. Ça consiste en quoi ? Ben, ça consiste à chercher à travers tous les continents les plantes sauvages qui peuvent devenir des plantes médicinales parce que il n'y a pratiquement pas de plantes qui n'aient pas de vertu. Alors, écoutons-le, mais il nous dit surtout, écoutons les plantes, car si nous écoutons les plantes, eh bien nous n'aurons pas la même philosophie, peut-être, de la vie. Enfin, et restez à l'écoute jusqu'au bout, parce que ça vaudra la peine, le docteur Zontag, qui est un habitué, de bien sûr, du journal, nous donnera ses formules de plantes et de remèdes naturels, qui nous aideront face au coronavirus. J'ai pas dit qu'on allait attaquer le coronavirus, on ne sait pas exactement. En tout cas, il va nous indiquer des plantes qui ont des propriétés antivirales, et à une période où nous n'avons pas beaucoup de médicaments qui aient cet effet, même il y a des médicaments qui sont tout à fait contre-indiqués, et vous l'avez déjà vu, vous le savez, les anti-inflammatoires, l'aspirine prise à forte dose, les cortisones, la corticoïde, les corticoïdes sont des médicaments qui peuvent avoir un effet négatif quand ils sont pris comme ça spontanément, pas en traitement au long cours. Attention que les personnes qui ont des pathologies cardiaques, par exemple, qui prennent des petites doses d'aspirine, n'arrêtent pas leur traitement et, par principe, n'arrêtons jamais un traitement au long cours sans en parler à son médecin. Donc, je disais, le Dr Zontag va nous donner des recettes de plantes qui peuvent nous aider à lutter contre les virus en général et pourquoi pas le coronavirus. Alors, ne quittez pas l'antenne, écoutez bien Radio IDFM Anguin, le journal de la santé jusqu'au bout. Je crois que ça en vaut la peine. A tout de suite. Eh bien, bonjour, nous retrouvons notre médecin préféré, toujours du fin fond de sa Bretagne. Bonjour Nathalie.
Bonjour Jacques.
Alors, je ne vous pose pas la question, il fait beau en Bretagne, c'est acquis. Mais on est tout le temps en train de revenir sur les idées reçues ou pas reçues. Il fallait coucher un enfant sur le ventre, après il fallait le mettre sur le côté. Et maintenant, il faut le mettre comment alors ?
En fait, c'est une question super importante parce que la Haute Autorité de Santé s'en est saisie, parce que les gens s'inquiétaient quand on couche les bébés sur le dos de voir des déformations du crâne et notamment un crâne un peu plat sur le dos. Donc, ils se sont penchés sur la question et en fait, la réponse, elle est très claire. Il faut continuer de coucher les nourrissons sur le dos. C'est ce qui prévient le mieux la mort subite ou la mort inattendue du nourrisson. ça a divisé par 4 le nombre de bébés morts de cette façon. Hein, on est passé de 300 à 400 décès par an à une centaine. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de...
Il n'y a pas de tergiversé.
Voilà, il faut coucher son bébé sur le dos. Alors, la Haute Autorité de Santé s'est bien sûr posé la question de cette histoire de crâne plat pour voir si ça avait des liens de causalité avec des troubles neurodéveloppementaux, ophtalmiques, oculomoteurs, etc. Et a priori, non, il n'y en a pas. Donc, et puis, il y a aussi moyen, même en couchant son bébé sur le dos, de prévenir ces déformations crâniennes. Donc la HAS, la Haute Autorité de Santé, ne recommande absolument pas les reposes tête, les choses comme ça. Elle dit au contraire qu'il faut créer un environnement propice à la liberté des mouvements du nourrisson. Ça veut dire quoi? En fait, à chaque fois qu'il est éveillé, il faut essayer de varier les postures. Donc vous pouvez le mettre sur un petit tapis d'éveil avec des jeux au sol et pas seulement une arche pour pas qu'il lève tout le temps la tête. Vous pouvez encourager les mouvements du bébé, vous pouvez stimuler sa rotation cervicale pendant les soins, c'est-à-dire qu'un peu on tourne vers la droite, un peu vers la gauche. L'idée, c'est de le bouger, de pousser à bouger. Et qu'il ne reste pas évidemment planté dans sa position sans bouger. Et voilà, et ça suffira à prévenir la plupart des plagiocéphalies. D'autant que, en fait, elle régresse la plupart pour toute seule.
Hein. Donc on ne s'inquiète pas, on ne s'inquiète pas, on continue de coucher bébé sur le dos.
Ah oui,
On évite bien sûr toujours les oreillers et on fait attention aux couvertures qui ne puissent pas s'enfouir dessus.
Et il y a un chiffre quand même pour terminer là-dessus qui peut rassurer les parents qui s'inquiètent de voir un crâne un peu plat. Il y a 22% des bébés qui, à 7 semaines, ont effectivement ce problème, mais à 2 ans, ils ne sont plus que 3%. Donc ça a régressé tout seul, quasi tout le temps.
Voilà, et puis ce qui compte, c'est pas tellement la forme du cerveau, c'est le cerveau. Bon, mais alors, vous allez nous donner quelque chose d'un petit peu plus drôle. Ça, c'était important, mais quelque chose de plus drôle, parce que on profite toujours des épidémies ou des circonstances difficiles. Certains profitent toujours pour en tirer profit. Et alors, c'est ce que nous dit effectivement, ce que nous disent effectivement les études, et je crois un journal en particulier qui a recensé un petit peu toutes les, j'allais dire, les mauvais traitements contre le coronavirus.
Ben, en fait, c'est la DGCRF, hein, la direction des fraudes, qui s'est penchée là-dessus, qui a trouvé, qui a fait différencier des milliers de produits qui se targuaient d'avoir des vertus anti-coronavirus. Et il y a effectivement le Figaro qui a regardé un petit peu de plus près sur une célèbre plateforme, pour ne pas la citer, et qui ont trouvé des choses très bizarres. Par exemple, des lampes de stérilisation anti-coronavirus, des lunettes anti-gouttelettes. Effectivement, si vous mettez les lunettes anti-gouttelettes des professionnels qui, eux, les utilisent avec un masque, avec tout ce qui va autour, pour protéger parfaitement le visage, mais si vous utilisez juste les lunettes, ça ne sert pas à grand-chose. On vend même des chapeaux anti-coronavirus, ce qui n'a pas beaucoup de sens. Des gants MAPA sont devenus des gants anti-coronavirus vendus beaucoup plus cher. Et le Figaro a même recensé des manuels de survie écrits par des gens qui ne sont ni médecins, ni rien, enfin, ni chercheurs, mais...
Qui n'ont pas vocation à être des
voilà,
experts.
Voilà, facteurs, jardiniers, peu importe, mais voilà, et qui donnent des conseils, qui vendent des bouquins sous des titres très accrocheurs pour se protéger de la grande épidémie mortelle au coronavirus. Et évidemment, tout ça, c'est des fraudes, et la DGCRF, elle n'aime pas beaucoup, mais aussi aux gens de faire attention et de ne pas croire tout et n'importe quoi.
Non, ne nous laissons pas piéger par des
alors, je signale quand même qu'un libraire, a priori, ne ferait pas ce genre de faute. Hein. Là, une plateforme, c'est un peu facile.
On vend et on vend n'importe quoi, à n'importe quel prix, à l'instant où on vend.
Oui, voilà.
Bon, allez, on passe, Nathalie.
Donc, allez voir vos petits commerçants, vos petits libraires.
Bon, Nathalie, maintenant, devient l'avocat des petits commerçants. Mais elle a raison, la relation humaine, il n'y a que ça de vrai. Alors, une petite dernière, Nathalie, qu'est-ce que vous allez nous dire?
Oui, parce que, en fait, celle qui a rendu célèbre les intoxications à l'arsenic, c'était Agatha Christie. Mais saviez-vous, Jacques, qu'en France, il y avait à peu près 7000 sites pollués, recensés toujours par la Haute Autorité de Santé, et qui du coup exposait de façon chronique les habitants à des risques d'intoxication à la chronique.
Vous n'allez pas nous dire, Nathalie, que ce sont tous les endroits où il y a des librairies avec les livres d'Agatha Christie.
Non, pas du tout. Ce sont tous les endroits où il y a certaines activités humaines, alors notamment le traitement des cultures de la vigne, le traitement du bois, le tannage des peaux, les productions de verre et l'extraction minière. Donc là, il y a des pollutions à l'arsenic. Et évidemment, les gens de ces lieux géographiques doivent être suivis par le médecin. Je pense que leur mairie, normalement, doit leur en parler. Et ils doivent avoir, selon le niveau de pollution des sites, et ben, ils sont plus ou moins invités à faire des analyses. Alors, c'est beaucoup des analyses d'urine, hein, au départ. Et il faut être particulièrement vigilant avec les jeunes enfants, les femmes enceintes, bien sûr. Mais il y a eu des recommandations émises pour ces populations qui sont toutes simples à suivre. Hein. C'est ne pas consommer les légumes produits sur place, donc dans leur jardin particulièrement, notamment les légumes feuilles, parce que leur surface peut être recouverte de poussière d'arsenic. Ne pas consommer l'eau des puits, se laver bien régulièrement les mains, donc ça c'est pratique, ça va servir aussi pour le coronavirus, mais laver régulièrement aussi tous les intérieurs avec des linges humides, ôter les chaussures à l'entrée de la maison. En fait, l'idée, comme l'arsenic dans ces zones-là, il se disperse via les poussières, c'est d'avoir le moins de poussière possible dans la maison. Et il faut faire attention, pourquoi on dit que les jeunes enfants sont très exposés, ben parce que les tout-petits, souvent, ils jouent par terre, dans la terre, ils portent à la bouche, et c'est là qu'il y a les poussières d'arsenic.
Voilà, comme pour le plomb d'ailleurs aussi, quelquefois, dans les oui. maisons anciennes, où la peinture au plomb peut s'écailler.
Et
où
oui, les parce enfants... que ce sont eux qui lèchent voilà. les bords de fenêtres.
Alors, je le dis avant que Nathalie ne le dise, allons tous en Bretagne, il n'y a pas de tannage de peau, il n'y a pas de vigne, et puis il pleut régulièrement, donc l'arsenic est mis dans le sol, on risque pas de le respirer en poussière, voilà. Eh ben, merci beaucoup Nathalie.
On a surtout la mer, donc là, c'est pas grave.
D'accord, eh ben beaucoup, merci beaucoup, à bientôt Nathalie.
Au revoir. Au revoir.
Perdu, très loin de la ville, une route sauvage sous un ciel tranquille. Et cette grande entrée au bout du chemin, je pousse la grille et soudain, une grande maison au bout d'une allée, une grande maison tout abandonnée. Et puis sur la porte, une petite pancarte où l'on a écrit à louer. Le vent s'est levé, et là-haut premier, ce volet qui bat, ne ferme toujours pas, ce volet grinçant, cachait notre amour, tu m'avais promis, mais un jour comme un autre, je t'ai attendu, jusqu'au petit matin, mais tu n'es pas venu, les mois ont passé, et malgré moi j'attends, je t'attends encore, et pourtant, même si tu revenais, je crois bien que rien n'y ferait. Notre amour n'aimera jamais. Je souffrirais trop si tu revenais. Même si tu revenais, je crois bien que rien n'y ferait. Notre amour n'aimera jamais. Je souffrirais trop si tu revenais.
Vous êtes resté sur le journal de la santé et du bien-être naturel, toujours Radio IDFM Anguin, toujours Jacques Labesca. Eh bien, nous avons eu la chance d'avoir à notre micro François Couplan. Il vient d'écrire un livre et qui est très intéressant. Et comme ethnobotaniste, il connaît bien les plantes, bien évidemment. Eh bien, mais il ne connaît pas que les plantes. Il a atteint une certaine philosophie, un certain degré de sagesse, peut-être justement à cause des plantes. Alors, écoutons-le, je ne vous en dis pas plus. Eh bien, bonjour, nous avons la chance et l'honneur, j'allais dire, d'avoir François Couplan à notre micro. François Couplan est ethnobotaniste, on le connaît bien, il est auteur de nombreux livres et il a passé sa vie à défendre les plantes sauvages et médicinales, n'est-ce pas?
Oui, on peut dire ça. On peut dire ça, effectivement. Oui. D'ailleurs... C'est parfois un petit peu de la bagarre, mais vous savez, de toute façon, c'est les plantes qui gagneront, alors...
Oui, alors d'ailleurs, c'est ce que vous dites. D'ailleurs, le titre déjà de votre livre, « Ce que les plantes ont à nous dire », qui apparaît aux éditions « Les liens qui libèrent ». Alors, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, les plantes, en fait?
Les plantes, alors déjà, à nous dire, il faudrait encore écouter ce qu'elles racontent, parce que sinon, ça se transmet pas très très bien. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que, en résumé, elles nous apprennent à voir la vie d'une autre façon que celle anthropocentrique que nous adoptons habituellement, quoi. Et ça, c'est essentiel. Quand on est en contact avec les plantes, on perçoit vraiment que la vie, c'est autre chose que notre petit monde humain à nous.
Oui, mais alors, comment elles font pour nous dire, en fait? C'est une question de Boétien, mais vous nous dites, parce que si on considère certaines expériences qui ont lieu dans différents pays, et d'ailleurs, je dois dire que votre bibliographie de livres est très riche. Et vraiment,
oui,
très riche.
Il y a des choses, oui.
Elle va d'Aristote à Zola, en passant par Sartre. Enfin, vraiment, là, on a un fondement très, très puissant. Mais par exemple.
C'est aussi parce que le livre, est composé en chapitres qui suit une progression qui va de la plante à nos rapports à la plante et à nos rapports à la nature et à nos rapports à nous-mêmes. Donc, ça fait beaucoup de champs et de disciplines différentes et qui, pour moi, sont complémentaires.
Alors, vous nous dites, on vient des plantes et l'avenir, l'avenir de l'homme, c'est la plante. Sauf que l'avenir, vous nous dites, l'avenir et le passé n'existent pas, c'est le présent qui compte.
Oui, bon, ça, c'est vrai, oui.
C'est vrai.
Moi, je le vis comme ça, en tout cas.
Et alors,
Je le vis comme ça, mais en même temps, bien sûr, il est indispensable de connaître son passé pour préparer son avenir et de penser à son avenir et quelque chose dont on ne peut pas faire l'économie. Ça, c'est la pensée paradoxale. C'est-à-dire que oui, on vit dans le présent, bien sûr, mais on ne peut pas oublier le passé. On doit même s'efforcer de le connaître et de le comprendre. Et si on ne prend pas... un soin extrême de notre avenir, nous, en tant qu'espèce humaine, on n'a pas de beau jour devant nous.
Oui, alors, vous n'êtes pas aussi pessimiste dans votre livre. La fin de votre livre est même plutôt optimiste. Alors, vous nous dites, on provient de l'algue bleue, ou quelque sorte, mais à détruire notre environnement, on va se détruire nous-mêmes.
Oui, je le sais, et je le raconte depuis combien de dizaines d'années. Déjà, j'en suis absolument convaincu et je l'ai compris. Il y avait déjà bien, bien longtemps quand on parlait encore du progrès comme une chose positive. Maintenant, il me semble que, je prêche pas dans le désert. Et je dirais même que la plupart des gens sont encore plus convaincus que moi. Parce qu'effectivement, moi, je suis pas angoissé, quoi. Ça, c'est sûr.
Alors, vous n'êtes pas très. Vous ne condamnez pas l'homme. Vous dites on a été mal programmé.
Je serais mal placé pour me condamner moi-même quand même, je suis un être humain, hein. Mais je pense que moi aussi je suis mal programmé, je m'en rends compte tous les jours, oui absolument, j'ai des réactions qui sont, qui me laissent pantois et contre lesquelles je ne peux rien, dans notre cerveau on a des circuits de reconnaissance qui sont stimulés par des choses qui ne sont pas toujours très glorieuses quand même, il faut le dire, comme le boost de l'ego, le surplus de nourriture, la paresse profonde, comme une certaine perversité même d'ailleurs. Mon Dieu, il y a intérêt à s'observer et à remettre un petit peu de l'ordre
Vous nous dites, on a été fait trop intelligent, mais pas assez conscient.
On peut dire ça, oui, parce que ce qui nous fait, nous, êtres humains, c'est effectivement notre cerveau, en particulier. Hein. Et ce cerveau, il est quand même vachement performant, mais il est performant au point qu'avec l'invention de l'agriculture, par exemple, c'est le meilleur exemple qu'on puisse prendre, on a inventé des instruments qui nous ont tellement permis de prendre le pouvoir sur notre environnement que maintenant, non seulement on en est malade, c'est déjà le cas, mais qu'on risque beaucoup plus gros, nous et une partie de la création, évidemment, bien sûr. Mais ça partait d'une bonne intention de l'évolution, si je puis dire, c'est-à-dire nous donner à nous, pauvres chétifs, petites créatures qui ne pouvons même pas griffer ou à peine les moyens de nous en tirer. Mais bon, voilà, c'était un petit peu la boîte de Pandore, l'agriculture, et notre cerveau, c'était un petit peu l'outil qui dépasse sa fonction.
C'est-à-dire qu'en fait, c'était une sorte de prise de pouvoir.
Bah, c'est pas une sorte de prise de pouvoir, c'est une prise de pouvoir absolument délibérée, quoi. Prise de pouvoir délibérée sur la nature. À partir du moment où on s'est mis à forcer la nature, on va dire, encore faudrait-il définir ce que c'est complexe, hein, donc je mets des guillemets chaque fois que j'emploie le mot nature, à produire ce que nous décidons qu'elle produise pour nous nourrir avec tout plein d'à côté, évidemment. C'est pas juste pour nous nourrir, c'est bien plus que ça. En particulier pour nous donner du statut. C'est ça qui est fondamental chez l'être humain. Eh bien, ça ne pouvait que tourner vers un développement prévisible, d'ailleurs, je pense, qui était, prendre tellement de pouvoir qu'on en étouffe, quoi.
On est victime de son propre pouvoir.
Oui, complètement, oui, bien sûr. Mais alors, je crois qu'on le sait. Maintenant, il est important de le conscientiser. Savoir, conscientiser, sont quand même des choses un petit peu différentes. Et puis après, évidemment, il y a l'action.
Alors, vous nous dites à la fin de votre livre, j'ai les solutions, mais vous ne les donnez pas.
Non.
Alors ?
Ah bah, je ne veux pas vous le... Donc, c'est-à-dire, comment est-ce que je peux dire ça ? C'est un petit peu complexe. D'abord, parce que il faudrait tout un bouquin pour en parler, donc ça pourrait être le prochain tome. Mais voilà. Mais surtout parce que pour moi, pourquoi j'ai 70 ans, tout ce que je raconte là-dedans, je le sais depuis longtemps. Mais il fallait que ça mûrisse, il fallait que ça mature. Et je pense que les choses les plus importantes, il faut vraiment les présenter d'une façon qui ne soit pas dogmatique et d'une façon il faut être très prudent. Parce que quand on s'approche de la vérité, vous voyez, je peux pas employer d'autres, enfin, je pourrais employer d'un autre terme, il faudrait employer des périphrases, il y a plein de guillemets, parce qu'il n'y a pas de vérité, ça n'existe pas. Encore une fois, pensons paradoxe, ça n'existe pas la vérité. Et pourtant, il y a des directions qui sont justes, quoi. Mais quand on va dans ces directions, on a d'autant plus de responsabilités, et on a d'autant plus, il faut être d'autant plus prudent. Donc je ne voudrais surtout pas dire, imposer ma pensée aux gens, quoi. Tout ce que je peux faire, ce que je souhaite faire, c'est donner des pistes de réflexion de façon à ce que chacun arrive à ses propres conclusions.
Chacun a sa vérité, quoi, en quelque sorte.
Quand on s'approche de quelque chose qu'on peut nommer la vérité, il faut surtout pas soi-même la mentionner, quoi. Il faut que chacun la découvre. Et donc, c'est pour ça que il y a un certain nombre de choses que je ne voudrais pas encore dire, quoi.
Et alors, on parle beaucoup de la communication avec les plantes et de la médecine quantique. Comment vous rapprochez les deux ?
Vous voyez, c'est intéressant parce que c'est ce que j'étais en train de dire.
Ben oui, c'est pour ça que je
dis. C'est pour ça que je... C'est ce que j'étais en train de dire. Parce que pour moi, ce sont des choses qui sont vraies, qui sont justes, mais qu'à l'heure actuelle, on perçoit avec notre approche anthropocentrique, donc on raconte plein de conneries là-dessus. Donc sur l'intelligence des plantes, sur la médecine quantique, comme vous dites, on raconte trop de conneries dessus, donc je ne veux pas entrer en matière.
D'accord, alors vous avez créé le collège d'ethnobotanique. Alors,
oui.
beaucoup de nos auditeurs vous connaissent parce que on vous voit souvent, on vous lit souvent, et c'est vrai que vous avez peut-être tort d'avoir raison trop tôt, mais bon, ça c'est un autre inconvénient. Mais c'est quoi les
deux botaniques? Oui, c'est bien que vous disiez ça comme ça, effectivement. Je le dirai pas moi-même, mais j'aime l'entendre.
Et alors, c'est quoi l'ethnobotanique? Quel est votre souhait en créant ce collège d'ethnobotanique?
Eh bien, alors, prenons ce terme d'ethnobotanique, que je n'ai pas inventé, bien sûr, et qui est une discipline dûment reconnue, mais très peu pratiquée, très peu enseignée, surtout, ce qui se fait d'une façon très scolaire, très dogmatique, dans le cadre ce qui était dans le temps le laboratoire d'ethnobotanique du muséum, maintenant qui a changé et qui est passé au musée de l'homme, voilà. Ethnobotanique, étymologiquement, ça veut dire ethnos, c'est le peuple, botanos, c'est la plante, donc l'étude des rapports entre les peuples et les plantes. Voilà. Maintenant, on dirait plutôt étude des rapports entre l'homme et les plantes. Et maintenant, au début, c'était les botanistes qui allaient étudier justement les utilisations des peuples chez différents plantes, chez différents peuples. Enfin, les utilisations et les rapports des plantes, des gens, des cultures, voilà, avec les plantes. Bon, maintenant, ce sont plutôt les anthropologues qui sont mis là-dedans. Donc voilà, il y a toute une histoire, c'est complexe, c'est passionnant, et puis c'est très humain, hein, évidemment, avec toutes sortes de débordements dans tous les sens. Voilà, bon. Moi, j'emploie ce terme parce qu'il me parle, parce que je le trouve joli, et puis parce que c'est vrai que ce que je propose dans ce collège de pratique d'ethnobotanique, c'est d'étudier les rapports des hommes avec les plantes, sauf que moi j'ai une idée derrière la tête, et que cette idée derrière la tête, c'est pas de faire que de l'anthropologie, c'est d'aller plus loin, c'est comme je l'ai dit tout au début, de découvrir une nouvelle façon d'explorer, de nouvelles façons de voir la vie en général. Voilà. Et pour moi, les plantes, elles nous donnent plein d'informations par rapport à ça. On pourra en parler un petit peu si vous voulez. Mais le but de ma démarche, c'est ça, c'est d'aller étudier les plantes, de commencer par mettre les plantes au centre. Voilà, arrêtez de mettre l'homme au centre, de mettre l'homme, la plante au centre. Nous, on s'intéresse aux plantes, et on ne se fait pas seulement s'intéresser aux plantes, on développe une relation avec les plantes. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de très important. Ce qu'il faut, c'est sortir, comme j'ai dit tout à l'heure, de notre anthropocentrisme, c'est-à-dire d'arriver à avoir une relation avec d'autres êtres que nous montrent, que nous-mêmes. Je reprends le terme de Francis Allais qui parle de l'altérité, dit les plantes sont notre altérité, et je trouve que c'est tout à fait juste, quoi. On a besoin de sortir du rapport uniquement avec nous-mêmes, sinon on devient fou, et c'est ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle. Voilà. Donc le fait de développer un contact et une véritable relation avec les plantes, pour moi c'est essentiel pour, je dirais, pour l'avenir de l'homme, en fait. Voilà.
Mais est-ce que c'était pas naturel, j'allais dire naturel, mais est-ce que c'était pas naturel auparavant, quand on avait le chamanisme, pourquoi pas les sorcières, entre guillemets, les grand-mères, les vieilles femmes, qu'on a les remèdes de vieilles femmes, ça a été vraiment la façon d'attaquer.
Oui, bien sûr.
Est-ce que
bien
c'était
sûr,
pas.
Il y avait une relation, voilà. Une véritable relation avec d'autres êtres vivants que nous-mêmes. Sauf que, et moi je trouve, et c'est pour ça que j'aime l'histoire, et je comprends, et j'apprécie, et j'accorde à ce qu'on peut appeler le progrès une valeur, à savoir que dans les cadres que vous avez cités là, il y avait quand même beaucoup d'incompréhension des phénomènes, donc beaucoup de superstition, beaucoup de prise de pouvoir, également des gens qui détenaient le savoir. Donc moi, je ne suis pas du tout passéiste, je ne regrette absolument rien. Je trouve que l'époque qu'on vit à l'heure actuelle est la plus parfaite de celles qui ont pu exister à travers le temps. Voilà, donc je me sens tout à fait bien là où je suis maintenant avec les différentes structures qui existent, et qu'on a une possibilité, qu'on a des possibilités et qu'on a un rôle à jouer avec des moyens qu'on n'a jamais eu. Donc on a d'autant plus de responsabilités et on a d'autant plus de possibilités. Donc voilà, je trouve que c'est très bien, et je regrette ni le chamanisme ni les sorcières, mais cette relation très peu de gens, en Occident en tout cas, dans nos pays, qui ont cette relation. Pour la plupart des gens, les plantes sauvages sont des mauvaises herbes qu'il faut éliminer, ou ce sont des possibilités d'aller chercher des médicaments qui vont servir à soigner l'être humain, encore une fois, ou ce sont des éléments de décoration, ou ce sont des éléments de réflexion, peut-être, mais ce sont pas vraiment des copains et des copines, quoi, des amis avec lesquels on peut avoir une relation, comme on a une relation avec différents êtres humains qu'on apprécie particulièrement. Mmh. Et on peut tout à fait développer ça avec les plantes, et c'est très simple, parce qu'on a des outils qui nous ont été donnés par la nature, qu'on n'utilise pas toujours à leur, comment dire, alors maximum, loin de là, hein, ce sont nos sens. La vue, donc l'observation, ce qui implique de prendre du temps, on est toujours pressé, mais les plantes, elles sont partout autour de nous, et quand on veut s'arrêter et discuter, c'est pas le terme, évidemment, hein, mais qu'il se fasse quelque chose avec une plante, et ben on s'arrête, on se pose, on l'observe, on la regarde de près, après on la touche, après on la sent, si on sait que c'est une plante qui n'est pas toxique, on la goûte, et là il se passe quelque chose, et on découvre, on va à la découverte d'un monde végétal qui est totalement insoupçonné, et c'est formidable, il n'y a pas besoin de se poser plus de questions que ça, les questions vont venir, les réponses vont venir, comme quand on se lie d'amitié avec quelqu'un, on a envie de découvrir qui il est, d'où il vient, ce qu'il fait, il va vous raconter des choses, les plantes vont nous raconter des choses par leur toucher, par les sensations qu'elles vont nous procurer, et on va pouvoir gamberger et aller explorer notre galaxie et nous-mêmes.
Alors est-ce que quand même, je vais vous provoquer un petit peu, est-ce qu'on n'a pas perdu un petit peu notre, vous dites qu'on a perdu notre conscience, mais est-ce qu'on n'a pas perdu aussi une certaine intuition? Parce que par exemple, si on prend, prenons l'astragale par exemple, l'astragale est un des constituants...
Quel astragale, mon cher, quel astragale? Les astragales, il y en a 500 espèces.
Oui, mais l'astragale, comment il s'appelle? Je ne sais plus comment son nom chinois.
D'accord. Ok, l'astragale qu'on utilise en médecine chinoise.
Voilà, l'astragale qu'on utilise en médecine chinoise. Et c'est pas l'os du pied non plus. Donc l'astragale est dans le bouillon de longue vie en Chine.
Oui, bien
et
sûr.
On
oui.
s'est rendu compte.
Enfin, bien sûr, je dis bien sûr. Enfin, je veux dire, les Chinois, eux, effectivement, ils appliquent le précepte d'Hippocrate que ton aliment soit ton médicament. Quand on est malade, on se nourrit, quoi.
Voilà. Et donc, l'astragale, on s'est rendu compte maintenant, chimiquement, enfin, du moins épigénétiquement, j'allais dire, qu'elle allonge les télomères des brins d'acide nucléique. Donc, ça explique bien, quelque part, enfin, la science moderne permet maintenant d'expliquer des choses qui étaient un peu intuitives. Mais est-ce que cette intuition, comme cette conscience, on l'a pas perdue?
Ah bah oui, bien sûr. Non, mais enfin, je veux dire, faut voir les choses encore plus loin. Je veux dire, au départ, l'être humain faisait partie de la nature de façon intégrante, donc il savait. Et puis en se séparant, enfin, on peut dire ça comme ça. C'est une histoire que je vous raconte. En s'en séparant, eh bien, il a perdu des tas de connaissances qu'on retrouve, par exemple, que retrouvent les chamans en utilisant des plantes psychoactives qui vont leur permettre d'aller explorer, d'aller justement développer des contacts, d'aller discuter avec les plantes et puis d'apprendre un tas de choses directement au contact des plantes, sans passer par le côté molécules chimiques comme nous on le fait. Nous, notre tradition à nous, occidentale, récente, d'ailleurs très récente, ça a été voilà, d'aller disséquer, d'aller créer des modèles de molécules chimiques et de choses comme ça, de donner des explications sur la façon dont les principes actifs peuvent réagir sur notre organisme pour provoquer telle ou telle réaction. Moi j'adore ça, c'est génial ce truc-là, mais ça, c'est un point de vue parmi d'autres.
Oui, et puis malheureusement, ça a vite dérivé vers le principe actif qui dérive vers le médicament et vers le... Là aussi, il y a le pouvoir de l'argent.
Oui, l'être humain, on en parlait tout à l'heure, il me semble. Non, l'être humain est mal programmé, je veux dire, tout est là-dedans.
Ben voilà.
Ce sont des déviances. À partir du moment où on a compris ça, vous savez quoi? On a plutôt de la compassion pour ces gens-là. Moi, Monsanto et les grands laboratoires, mais j'ai aucune haine pour eux. Par contre, j'ai beaucoup de compassion, parce que les pauvres, ils se font du mal, hein.
Eh bien voilà, je crois que c'est une belle conclusion, François Couplant. Nous rappelons le titre de votre livre, « Ce que les plantes ont à nous dire », qui est apparu aux éditions Les Liens qui Libèrent. Merci beaucoup, François Couplant.
Est-ce que je peux vous indiquer mon site internet
Bien sûr, il y a plein de choses
et j'aime bien quand les gens m'écrivent et me posent des questions. Et c'est www.couplant.com, couplant.com.
Eh bien écoutez, vous risquez d'avoir beaucoup de nos auditeurs qui vont vous écrire.
Ouais, ça me fait plaisir, j'aime ça.
Merci beaucoup et à bientôt.
Ok, à bientôt. Au revoir.
Je vis comme si j'étais en vacances. Je vis comme si j'étais éternelle, comme si les nouvelles étaient sans problème. Moi, je vis d'amour et de rire. Je vis comme si y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Je tourne le disque, je vais, je viens, j'ai appris à vivre comme si j'étais libre et en équilibre. Moi, je vis d'amour et de rire, je vis comme si y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue.
Restez sur l'antenne, sur Radio IDFM Anguin, et vous avez bien fait, car maintenant, dans le journal de la santé et du bien-être naturel, vous attendez tous les recettes du Dr Zontag. Et oui, le Dr Zontag a toujours des formules, je ne dis pas magiques, mais des formules naturelles qui peuvent nous aider. Alors, attention, ça ne doit pas remplacer le traitement de votre médecin. Hein. Mais, on peut adjoindre à un traitement classique ou à l'absence de traitement, on peut le remplacer à ce moment-là par des traitements plus naturels à base de plantes, parce que les plantes ont des vertus. Le thym est un antiviral, la cannelle, mais j'en en dis pas plus. Écoutons le docteur Zontag. Alors, on est aujourd'hui content de retrouver le docteur Zontag, qui, nous rappelons, est pharmacien à Nancy, à la pharmacie des Termes, parce que les virus attaquent, hein, et c'est pas un film de science-fiction, malheureusement. Et le docteur Zontag, c'est pas non plus Superman, mais il a quand même des bonnes parades au plan médical. Alors, bonjour, docteur Zontag.
Oui, bonjour.
Alors,
oui,
qu'est-ce que vous allez nous recommander?
Oui.
Qu'est-ce que vous allez nous recommander comme bonne plante?
Une stratégie d'abord. En amont, dans un premier temps, on va, pour faire barrière, on va mettre toutes les chances de notre côté avec, on va détailler un drainage du foie, je vous ai expliqué pourquoi, un drainage intestinal et aussi bien gérer le stress et l'anxiété. Alors le drainage du foie, pourquoi? Parce que le foie a un rôle très important dans l'immunité et on a tout à fait intérêt à être en bonne forme pour lutter contre toutes ces agressions virales. Alors, on va tout simplement déjà une petite tisane de romarin le matin, c'est pas grand chose, mais à la place du café, c'est déjà bien utile parce que le romarin, vous savez, est une plante très intéressante comme draineur du foie et l'aspect répétitif est tout à fait intéressant. Si on veut faire des choses beaucoup plus intéressantes et peut-être plus, on va dire, efficaces, on va utiliser des extraits hydroalcooliques, des teintures mères avec un mélange. Alors là, on peut noter le chardon-marie, qu'on connaît bien, qui est un traîneur hépato-biliaire, qui est cholérétique et cholédoque, c'est-à-dire qu'il augmente la quantité de bile. On va aussi utiliser la chicorée. Alors ça peut être en mélange, on peut en mettre 2-3 comme ça. Hein. L'artichaut, cinara, qui aussi est intéressant, qui est aussi cholérétique et cholagogue. La pensée sauvage, tout ça, ce sont des plantes qui agissent sur le foie. Alors on peut en choisir 2-3. On va prendre en partie égale, dans un flacon de 125 ml par exemple, et on va prendre une cuillère à café le matin ou 100 gouttes le matin avec de l'eau. Là déjà, on va avoir un bon drainage du foie. Et puis, ça va être intéressant parce que on va mettre tout l'organisme en route, y compris d'ailleurs le drainage intestinal que l'on va démarrer en même temps. Pourquoi le drainage intestinal? Parce que vous savez bien qu'on a intérêt à avoir les intestins qui laissent pas passer n'importe quoi. Et on va utiliser 3 plantes que l'on peut prendre d'ailleurs en tisane ou plutôt en extrait hydroalcoolique, parce que vous savez, c'est mon petit zava, mais je trouve que c'est quand même plus efficace. On va y mettre de la mélisse, de la myrtille. Bon, la myrtille est une plante très connue au niveau drainage intestinal, et la mauve. La mauve, en même temps, est anti-inflammatoire. Alors, on va prendre une cuillère à café ou 100 gouttes du mélange, ou un bon bol de tisane le matin, de manière à avoir un intestin en bonne forme. Et puis quelque chose qui va peut-être vous étonner, mais c'est une action aussi sur le stress et l'anxiété. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que on a besoin d'être zen, on a besoin d'être assez tranquille par rapport, je sais que c'est pas facile, mais l'immunité a besoin d'une ambiance de tranquillité et il y a énormément de coopération entre le système nerveux et l'immunité. Et on a tendance à l'oublier. Et donc en cas de problème, si vous avez une anxiété particulière, et il y a de quoi, ça c'est sûr, on va prendre Griffonia, que vous connaissez bien, hein, qui fournit de 5 HTP, qui est antidéprime, et puis on va mettre de la rhodiole, qui complète bien, la rhodiole, vous savez, qui est adaptogène. Et pareil, on va prendre une cuillère à café de ce mélange-là le matin. Donc vous me direz, ça fait beaucoup de choses à faire, mais enfin, on subit quand même une agression assez forte en ce moment. Alors voilà ce que je vous propose en amont. Hein.
Alors donc,
si on est en bonne santé, on le fait, on est d'accord. Hein.
Alors on répète pour être bien clair, le drainage hépatique,
oui.
Le drainage intestinal et
oui.
l'antistress oxydatif. D'ailleurs, on parle toujours de stress oxydatif.
Ah, le stress oxydant, effectivement, fait partie, on va en parler après. Là, on parle du stress de la nervosité, hein, de l'aspect nerveux. Maintenant, on parlera aussi du stress oxydant qui est hyper important par la suite.
Bon, alors on commence comme ça. Et après,
oui.
On passe à quoi alors?
Alors on passe au bon vieux truc c'est tout à fait logique de la désinfection des mains, ça c'est sûr, ça il faut le faire. Bon, alors en ce moment, on trouve pas forcément beaucoup de gel hydroalcoolique, donc ce qu'on peut faire, dans la mesure où on a de l'alcool, c'est faire un mélange avec alcool, huile essentielle. Alors, il faut bien dire que, pour l'instant, on ne sait pas si les huiles essentielles fonctionnent sur ce sacré virus. Il est certain qu'il y a des huiles essentielles antivirales qui fonctionnent sur certains virus, y compris l'herpès, y compris le virus de la grippe, mais on ne sait pas trop. Mais l'idée, c'est que, de toute façon, ça ne fera pas de mal, et que l'alcool, on le sait, est antiviral. Donc, si on rajoute des huiles essentielles dans de l'alcool, si on se lave les mains, si on se fait 2-3 passages par jour, y compris vaporiser peut-être un petit peu les clanches, etc., autour de soi, y compris vaporiser dans l'atmosphère, ça ne peut pas faire de mal. Donc, je propose un tiers du mélange suivant d'huile essentielle et 2/3 d'alcool. Les huiles essentielles seront le thym, romarin, il n'y a rien de bien extraordinaire, hein. Titri, vous savez que le titri est particulièrement intéressant comme anti-infection au niveau des sinus, la sarriette, le ravinsara, bien sûr, le niaouli, et tout ça en partie égale. Donc on va mettre, je répète, 2/3 d'alcool à 90 et 1/3 d'huile essentielle. Vous voyez, c'est quand même assez concentré en huile essentielle. Donc ensuite, on va augmenter les défenses. Là, je parle d'une manière interne. On va faire un mélange toujours d'huile essentielle avec échinacea. Encore une fois, c'est pas très original, mais c'est une plante efficace. L'astragale. Vous savez que l'astragale est antivirale, mais très très puissante. On connaît moins bien cette plante qui arrive sur le marché, qui nous vient de Chine, comme par hasard, et qui a aussi une action anti-inflammatoire. Donc tout ça, c'est bon à prendre. Et puis, on parlait des antioxydants, du stress oxydant. Alors, c'est sûr que c'est très important. On a intérêt à utiliser des plantes comme la cannelle, la girofle, on reviendra après, par exemple en tisane, en prenant des copeaux d'écorce de cannelle, et puis une dizaine, par exemple pour un litre, une dizaine de clous de girofle. On va faire bouillir tout ça et on va se prendre un bon bol par jour. Ça va être intéressant aussi au niveau intestinal, et ça va nous donner un petit peu de tonus si on se sent fatigué. Après, on a bien sûr curcuma, gingembre, ça c'est les deux plantes importantes, hein, comme antioxydants. Et d'une manière générale, ben, beaucoup de légumes, bien sûr, hein, au niveau alimentaire, peu de laitage et pratiquement pas de viande rouge, ça c'est quand même assez important. Donc là, j'en ai fini avec, hein, on a dit désinfection des mains, augmentation des défenses, et puis là, on va, je vous ai concocté un mélange en cas de problème viral. Alors, coronavirus ou pas, de toute façon, on risque rien de le prendre. Il y a une action. Alors, bien sûr, toujours, on n'a pas la certitude d'action antivirale, mais comme souvent, on ne sait pas quelle est l'atteinte virale, on risque rien de prendre ce genre de mélange qui, je répète, n'ont pas d'effet secondaire. Parmi les huiles essentielles que l'on va utiliser, on va faire un mélange huile essentielle et teinture mère, hein. Les deux en même temps. Parmi les huiles essentielles qu'on va utiliser, il y aura le laurier noble. On sait très bien que le laurier a une action immunostimulante et antivirale assez puissante. Le titri, pareil, antiviral. Le thym, vulgaire. Et le ravinsara. Là, on a quatre huiles essentielles qui sont assez reconnues comme étant antivirales. Là-dedans, on va rajouter du buis, qui est un antiviral assez costaud. Le sambucus, qui en même temps sera anti-inflammatoire. Le drosera, qui n'est pas antiviral, mais au niveau pulmonaire, c'est un antispasmodique pulmonaire intéressant. On va rajouter de la fumeterre. Pourquoi ? Parce que c'est un draineur hépato-pancréato-biliaire et qu'on a intérêt toujours à avoir tous ces organes en bon ordre de marche. Le plantain, anti-inflammatoire et anti-infectieux, classiquement, mais toujours dans les problèmes ORL, et puis l'astragale, bien sûr, toujours antiviral et anti-inflammatoire. Donc on mélange tout ça, et en cas de problème, je dis bien, on va se prendre 100 gouttes, matin, 3 fois par jour, matin, midi et soir, avec de l'eau plutôt tiède, et sans oublier de bien agiter le flacon, parce que il faut que les huiles essentielles se mélangent bien avec les teintures mères. Ça, c'est un premier mélange qui est, on va dire, thérapeutique. On va reprendre aussi, je le rappelle, la fameuse tisane cannelle girofle, qui est quand même très intéressante parce que, quand même, parce que bon, les tisanes, on a tendance à penser que c'est moins intéressant, mais celle-là est particulièrement redoutable, je veux dire que particulièrement efficace, y compris comme antiviral, sachant que la cannelle et la girofle, vous le savez, sont deux plantes qui ont des propriétés antivirales quand même assez fortes, et qui surtout sont des antioxydants, sachant que, à ma connaissance, dans le système végétal, la cannelle et la girofle sont les deux plantes les plus antioxydantes qui puissent exister. Ensuite, en cas de fièvre, pour terminer, si vraiment ça ne va pas, nous sommes bien armés hein, pour les problèmes de fièvre. Le chardon béni, par exemple, qui est à la fois fébrifuge, qui est un petit peu diurétique, sachant que bien sûr on fait une diète hydrique, mais il faut boire énormément, l'aspirine odorante, qui est fébrifuge et sédative, le saule, puis le buis aussi, qui est fébrifuge. Donc vous voyez, ces quatre plantes-là sont intéressantes. On va terminer par des fruits à prendre, des légumes et des fruits, les figues, alors, comme apport vitamine C et apport vitamine, figues, argousiers et framboises, ça c'est trois choses très intéressantes. Et puis des jus, alors c'est moins drôle, le jus de concombre, le jus de céleri, tout ça c'est toujours intéressant, ainsi que la décoction de figues. Voilà tout ça pour vous aider à passer cette période un peu difficile.
Alors, est-ce que je peux vous poser deux questions, docteur Montag?
Oui.
Je voudrais vous donner, ou d'abord je voudrais, mais c'est pour tout, pour les auditeurs, je voudrais qu'ils le sachent bien, qu'ils l'entendent bien, qu'il faut éviter absolument les médicaments anti-inflammatoires et corticoïdes en cas de suspicion antivirale. C'est la première question. Et la deuxième question, on parle beaucoup de l'application d'huile essentielle au niveau notamment des zones de poignet, qui sont des zones richement énervées et richement vascularisées. Est-ce que vous conseillez les anti-inflammatoires, est-ce que vous conseillez les huiles essentielles?
Bien sûr, non. Le problème des plantes qui ont des propriétés anti-inflammatoires. A priori, je ne pense pas que ça pose de problème parce qu'elles agissent différemment et puis on n'a pas tous les effets secondaires effectivement inhérents aux médicaments allopathiques. Ça, c'est certain. Les huiles essentielles, encore une fois, par rapport à ce problème très précis, on n'a pas d'éléments qui nous disent que les huiles essentielles sont effectivement intéressantes pour lutter contre ce virus. Pour les autres, on le sait. Pour celui-là, il faut savoir qu'on ne le connaît pas. C'est ça le gros problème. Donc, j'ai toujours tendance à dire, on peut toujours essayer. De toute façon, dans la mesure où on n'aura pas d'effet secondaire, et à la limite, ça ne peut pas faire de mal, mais effectivement, nous n'avons pas, je le répète, de certitude quant à l'action des huiles essentielles sur ce virus.
Et alors, dans ces cas-là, vous conseillez de quoi mettre en percutané? Ravinsara, par exemple?
Le Ravinsara, on peut mettre le laurier Ravinsara titri dans une huile végétale, par exemple. Hein. Bon. On peut faire ça, de toute façon, oui, bien sûr.
Alors, qui peut être une huile d'amande douce, par exemple?
Y compris sur sur la poitrine, hein, en cas de toux, hein.
D'accord,
on a de toute façon toujours une action immunostimulante, on n'a pas que cette action antivirale. Hein. Le titri et le laurier noble, par exemple, sont des plantes qui vraiment ont une action sur l'immunité. Il faut bien tenir compte de cela. Il y a un tout au niveau thérapeutique, il n'y a pas que l'effet antiviral.
Et alors donc, on dit toujours, enfin on le répète, vous le répétez souvent, pas d'huile essentielle pure sur la peau.
Oui, on a toujours intérêt à diluer, d'une part parce qu'il y a souvent un aspect un peu allergisant, on a intérêt à le diluer effectivement dans une huile végétale. De toute manière, ça ne diminuera pas l'action de l'huile essentielle.
Et en revanche,
c'est tellement puissant qu'il suffit de mettre, quand je dis deux tiers, un tiers, là je parle pour désinfecter les mains, c'est une proportion importante. Hein. Un tiers d'huile essentielle et deux tiers d'alcool, c'est une proportion très importante. Hein. Il faut savoir que les huiles essentielles, on le sait bien, sont très très puissantes.
Oui, normalement, si on les prend péros, c'est plutôt 10 à 20% de concentration seulement.
Oui, alors, il est vrai que je vous ai parlé d'un mélange avec thérapeutique, et je viens de penser que je ne vous ai pas donné les quantités. La formule avec laurier, titri, thym et ravinsara, on met 0,5 g de chaque huile essentielle dans un 125, et on complète avec les teintures mères que j'ai indiquées. Je crois que je ne vous ai pas indiqué effectivement les quantités.
Et alors, pour être
complet... 0,5 de chaque pour un flacon de 125. Ça fait à peu près 2 grammes pour un flacon de 125 millilitres. C'est une tout à fait raisonnable. On peut aller beaucoup plus... à des concentrations plus fortes. On peut aller pratiquement jusqu'au double. Mais 0,50, là, 4 fois 5, 20, ça fait 2 grammes. 2 grammes, c'est tout à fait bien.
Alors, en revanche, on doit toujours, mais je pense que vous allez être d'accord, dire qu'on conseille par précaution aux femmes enceintes, à l'étante et aux enfants jeunes de ne pas prendre d'huile essentielle.
Tout à fait, bien sûr, bien sûr, bien sûr, surtout les enfants. Par chance, a priori, les enfants ne sont pas directement des cibles de ce virus, mais indépendamment de cela, il faut faire très attention, y compris quand on diffuse des huiles essentielles. Si vous diffusez des huiles essentielles dans une chambre d'enfant, faites-le quand l'enfant n'est pas là. Et après, on arrête le diffuseur, et bon, après, c'est possible. Hein, par exemple, s'il y a une chambre de malade, on le fait quand l'enfant malade n'est pas présent dans la pièce.
Eh bien, écoutez, je crois qu'on est paré, hein, docteur Zantag, on est paré, et merci beaucoup, parce que effectivement, on doit reconnaître qu'on n'a pas beaucoup de médicaments antiviraux efficaces. Le seul, pratiquement, médicament, c'est le vaccin, mais en général, le vaccin, on l'obtient toujours un an après qu'il n'y ait plus d'infection, parce qu'il faut le temps de développer, bien sûr, le vaccin, la souche. Donc, merci beaucoup, on va suivre vos conseils, et puis conseillons aux auditeurs, toujours, ce que l'on dit régulièrement, d'essayer de rencontrer le moins possible de personnes, parce que quand on peut être sujet contact et on peut contaminer des personnes même malgré soi, donc essayons de rester tranquille et d'être avec les précautions, les mesures barrières, toutes ces choses qui ont l'air un peu étonnantes mais qui sont importantes, n'est-ce pas?
Tout à fait, c'est ce que je fais d'ailleurs, je suis chez moi, voilà.
Et bien voilà,
je donne un bon exemple.
Ce qui nous a donné la chance de pouvoir interviewer le Dr Zantag, mais par téléphone, puisque justement, nous aussi, nous respectons les consignes, et nous ne sommes pas allés le voir à Nancy, et il n'est pas en ce moment à la pharmacie des Termes, il est de plus en plus chez lui, et il a raison. Merci beaucoup, Dr Zantag, et à bientôt.
À bientôt.
Au revoir. J'espère que le journal de la santé et du bien-être naturel de ce mois d'avril vous a plu. Hein, vous le retrouvez effectivement, notre journal, tous les jeudis, les premiers jeudis du mois, de 15h à 16h. Aujourd'hui, il a été un peu spécial, une interview fort intéressante, j'espère qu'elle vous a plu, de François Couplan. Il n'est pas si fréquent de l'entendre sur les radios, donc j'espère que vous l'avez écouté. Si vous ne l'avez pas écouté, vous savez que vous pouvez réécouter en podcast notre journal de la santé et du bien-être sur le site de l'émission, sur Radio IDFM Anguin, qui met en ligne les podcasts, ou sur mon site propre qui s'appelle soignéparlesplantes.com, soignéparlesplantes.com. Vous pouvez donc retrouver cette interview de François Couplan, mais aussi les recettes du Dr Zantag. Si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, vous retrouverez sur notre site ou sur le site de la radio ces formules. Bonne soirée à tous. J'espère que vous n'avez pas été trop touchés par ce virus, ce mauvais virus. Et puis, j'espère que l'on peut vous a un peu aidé, qu'on vous a un peu réjoui et peut-être fait penser à autre chose. En tout cas, donner les moyens de vous sentir mieux au naturel. À bientôt, au mois prochain. Et merci et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Au revoir.
balade musicale du lundi au dimanche de 16h à 17h. Une invitation à la musique classique, instrumentale et lyrique. Le concept est d'inviter des artistes, compositeurs, chefs d'orchestre, instrumentistes et chanteurs lyriques. Et de parler des événements actuels, des festivals, des concerts, de la sortie de nouveaux disques classiques avec Marie-Thérèse Pfeiffer, Bernard Ventre et Christophe Gravreau. Balade musicale du lundi au dimanche de 16h à 17h.
Bonjour, c'est Mehdi. Je vous donne rendez-vous tous les dimanches matins pour votre émission de dédicace entre 9h30 et 10h30. Pour choisir votre chanson préférée et la dédicacer à ceux que vous aimez, composez dès maintenant le 07 58 80 75 54. Laissez votre dédicace sur notre répondeur 07 58 80